Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52. Depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes. En l'occurrence, nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. 2 fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis entourée de mes chères féministes mal rasées mais bien misandres. Salut Elsa.
Salut.
Salut Margaïde.
Salut.
Dans ce 33e épisode, nous allons parler des warriors qui se battent contre les diktats de beauté. Qu'est-ce qu'un diktat, pour commencer? Donc au son, j'imagine que vous vous en doutez un petit peu, mais en gros, c'est une norme qui nous est imposée. Par exemple, le fait qu'il faille au maximum rester jeune, le fait qu'on doive s'épiler, avoir les cheveux longs, être mince, voire maigre, etc. Tout ça, ce sont des diktats, donc, qui infiltrent nos esprits et nos corps jusqu'à faire de nous nos propres ennemis. Oui, je dis bien ennemis, parce que qu'on se le dise, tout est fait pour qu'on s'auto-déteste. Imaginez d'ailleurs si demain toutes les meufs de ce monde se trouvaient belles, le nombre d'industries qui se casseraient la gueule. La cosmétique, la chirurgie esthétique, les régimes, la mode, la coiffure. Toutes ces industries ont besoin qu'on se déteste, qu'on déteste ce qu'on voit dans le miroir pour nous vendre leurs produits. L'Oréal, parce que notre chiffre d'affaires vaut bien qu'on te détruise le moral et la santé.
C'est ça.
Donc oui, même s'aimer, c'est politique. Oui, c'est même de la résistance. D'une culture à l'autre et même d'une époque à l'autre, les idéaux de beauté changent. Ils dépendent souvent de la classe sociale dominante. Donc, vous vous en doutez, les blancs riches. En France, par exemple, il fut un temps où la mode était au corps féminin enrobé, très blanc, avec de petits seins. Enrobé parce que ça signifiait que tu mangeais à ta faim, thune. Blanc, carrément quitte à ajouter de la poudre, parce que t'étais au-dessus, thune. Et maintenant, on se fait de la chirurgie esthétique pour se faire grossir les seins, on fait des UV pour avoir l'air d'avoir les moyens de partir en vacances, et on fait des régimes super nocifs pour être les plus minces, voire maigres possibles. C'est pour vous dire à quel point c'est hypocrite ces histoires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est précisément ce dont nos warriors vont te parler aujourd'hui. Elles ont arrêté de s'épiler, de porter des soutifs, elles foutent la paix à leurs cheveux blancs, elles s'habillent comme elles veulent, se foutent de ce qu'on attend d'un genre ou d'un autre. Bref, les normes, elles en font des frisbees. Cet épisode, c'est donc un hommage à nos beautés naturelles. Oui, j'ai bien dit beauté au pluriel et j'espère que tu sortiras de là en mode fusée Ariane, parce que t'es une fusée.
Wouh !
Et oui, c'est à toi que je parle, toi là-bas au fond, tout timide. Et pour préparer ce décollage, c'est Marga qui nous présente notre première warrior.
C'est parti ! Avec Colline qui nous raconte comment elle accepte ses cheveux blancs.
Toutes les femmes de ma famille sont très brunes et on a toutes eu des cheveux blancs très jeunes. Donc ma mère a commencé à avoir ses cheveux blancs quand elle avait 26 ans et du coup elle se teignait déjà les cheveux à cette époque. Et il y a aucune femme dans ma famille qui... Enfin, sauf une vieille tante, mais hormis elle, tout le monde se teint les cheveux. Et je sais que quand j'étais petite, ça me terrorisait un peu parce que je voyais ma mère qui se faisait ses teintures des fois dans la salle de bain et qu'elle n'y arrivait pas. Et du coup, après, elle devait aller chez le coiffeur. Et puis du coup, c'est quand même un entretien d'avoir une jolie teinture de cheveux. Enfin, ça veut dire qu'on perd du temps pour aller chez le coiffeur. Ça, c'est un gros budget dans le mois. Et je sais que moi, je regardais ça et je me disais, oh là là, ça a l'air vraiment super chiant. Et je pense que j'ai un caractère à toujours me dire, je vais choisir la solution qui va être la plus facile. Et je pense que ça, c'est un peu un atout dans la vie pour pas être sensible aux diktats de beauté. Enfin, par exemple, je me maquille pas. Pas parce que j'aime pas le maquillage ou que je suis contre pour des raisons on va dire militante, mais simplement parce que je trouve que ça prend trop de temps. Et je trouve que se teindre les cheveux, c'est pareil, en fait, c'est vraiment une prise de tête pénible. Et je sais que je me suis quand même posé la question parce que j'ai les cheveux bouclés et j'avais toujours entendu dire que quand on était brune avec les cheveux bouclés, justement, avoir les cheveux blancs, c'était moche parce qu'il y avait toute cette phase où les cheveux vont être preuve vaisselle, et notamment sur des cheveux bouclés par rapport à des cheveux lisses, et ben... on est facilement vu comme négligé. Donc c'était un peu une crainte que j'avais, mais finalement j'ai suivi ma tendance de personnalité, on va dire, qui consiste à se laisser paresseusement aller tant qu'il n'y a pas de problème important. Et du coup, là j'ai 31 ans, et j'ai pas les cheveux intégralement blancs, mais ils sont parsemés de mèches blanches, on va dire. Et je me suis rendu compte en fait que c'était pas moche du tout. Ça donne un côté même assez original, enfin moi en tout cas j'aime bien. Du coup il y a une période de ma vie où j'ai commencé à chercher des photos de femmes qui avaient des cheveux blancs pour avoir un peu des inspirations, et je me suis rendu compte que c'était très très beau. Et il y avait une phrase dans le livre de Mona Chollet, Sorcière, qui m'a plu, qui disait en gros que le fait d'avoir peu à peu des cheveux blancs, c'est un peu comme une transformation, et que c'est un peu comme d'aller vers un nouveau stade de sa vie où la vie est peut-être plus légère, enfin, où il y a une forme de légèreté et du fait de se sentir bien dans sa peau. Et moi, je dis souvent aux gens que, par exemple, je suis très brune, j'aurais jamais pu me faire une teinture pour devenir blond platine, par exemple, parce qu'avec ma couleur de cheveux, ça aurait été trop compliqué. Et pourtant, il y a eu plusieurs moments dans ma vie où je me disais, tiens, si j'étais blonde, à quoi ça ressemblerait? Et finalement, en fait, ma sorte de teinture blonde, je vais finir par l'avoir, parce qu'à la fin j'aurai les cheveux blancs. Et en fait pour moi c'est un peu comme une transformation, c'est-à-dire que je vais changer de couleur de cheveux au cours de ma vie, et ça va se faire de manière naturelle, et c'est un peu comme une découverte. Enfin, il y a un côté un peu curiosité. Et je pense qu'au lieu de prendre les cheveux blancs comme la preuve qu'on vieillit, que voilà, on va bientôt mourir, que c'est la décrépitude du corps, etc., on peut aussi le voir comme une transition vers une autre personne qu'on va être et se réjouir de la personne qu'on va devenir. Et moi, je sais que, par exemple, le fait d'avoir des cheveux blancs, ça éclaircit mon visage, et j'ai l'impression que ça le rend limite plus jeune et plus joyeux. Et du coup, je suis contente d'avoir des cheveux blancs. Voilà.
Merci beaucoup, Colline.
Bravo.
Et bravo, ouais, c'est super la façon dont tu expliques en fait comment le cheveu blanc en fait n'a rien de négatif finalement.
Ouais. C'est la marque du temps qui passe.
Voilà, exactement. Et surtout ce que tu dis quoi, se teindre les cheveux, c'est une perte de temps plus une perte d'argent, genre la flemme en fait.
C'est clair.
Mais comme tous les diktats quoi, que ce soit l'épilation ou les fringues ou n'importe quoi.
Elle évoquait le maquillage typiquement. Le maquillage, il y a des personnes le matin, ça leur prend une heure. Alors après quand tu kiffes, c'est très bien. Mais perso, moi, je suis allée me maquiller beaucoup et maintenant c'est mascara. Là, je m'en vais. Flemme aussi, quoi. Perds trop de temps et d'argent. C'est pas possible.
Ah ouais, non, mais laisse tomber.
Faudrait faire le calcul en fait de tout ce que ça nous coûte. Je pense qu'on arriverait à plusieurs dizaines de milliers d'euros
clairement
si on mettait tout bout à bout.
J'ai quelques chiffres que je vous donnerai tout à l'heure.
Ah cool.
Et même en temps, t'imagines si on te dit t'as passé un an de ta vie devant le miroir à te maquiller par exemple, tu te dis putain, c'est un temps que j'aurais dû passer à être dehors, à kiffer, à passer avec d'autres gens ou à s'occuper de toi vraiment pour des choses qui te font du bien. Après moi je blâme pas les gens qui se maquillent, j'ai adoré ça aussi, mais c'est vrai que quand on y réfléchit deux secondes, on se dit c'est quand même un sacré rituel contraignant quoi.
Moi je me souviens, il y avait une fille qui m'avait dit c'est normal que les mecs nous invitent au resto parce qu'ils nous remboursent ce qu'on dépense en beauté.
Ah. Ouais, sauf qu'a priori, ils le voient pas comme ça.
Ils le voient pas comme ça. Mais je comprends du point de vue de la meuf qu'elle se dit attends, ça coûte cher tout ça. Donc, ouais.
Et Colline, elle parle aussi du livre de Mona Chollet, Sorcière. Je sais pas si vous l'avez lu. En tout cas, je vous le conseille vraiment. Il est vraiment super intéressant là-dessus, et notamment sur le passage du temps, en fait, sur le corps des femmes. Et donc, Colline nous en a signalé quelques extraits. Il y en a un, justement, je me suis dit, j'avais envie de partager avec vous. Donc, ce que dit Mona Chollet, c'est le diktat délirant de l'éternelle jeunesse condamne les femmes à vivre dans des faux semblants et la honte d'être elles-mêmes. Alors, c'est-à-dire qu'on emploie des artifices pour cacher, le passage du temps sur nos corps, alors que pour les hommes, au contraire, contraire, c'est souvent valorisé. Ouais. C'est vu comme un signe de maturité. Mm-hmm. Alors, assumons, nous aussi,
George Clooney.
Le temps qui passe, voilà.
On en a parlé dans l'épisode sur les séries, et c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui recourent à la chirurgie esthétique sur ce critère très précis de l'éternelle jeunesse, là. Le truc étant d'avoir constamment l'air jeune, alors qu'un homme qui vieillit, au contraire, il prend de la valeur. Mais c'est, moi, la chirurgie esthétique, je me dis toujours, d'ailleurs, c'est Mona Chollet qui avait fait une comparaison là-dessus, une comparaison risquée, mais qui me semble à certains endroits juste sur le fait que c'était une burqa définitive. Dire, on est tout le temps en train de parler du voile, etc. Et on parle pas de la chirurgie esthétique, alors que c'est vraiment une déformation définitive qu'on applique à notre visage ou à notre corps, dans le but de correspondre aux attentes des hommes, encore une fois. Ouais. Donc, c'est, si on y réfléchit bien, la chirurgie ne choque personne, alors qu'en fait, on devrait pouvoir questionner beaucoup plus l'usage qui, en effet, est souvent très excessif. Ouais.
Et pour terminer, si on avait encore un doute sur The Cheveux Blancs is Beautiful, il y a une citation de Sylvie Fontanelle, qui est dans le livre de Mona Chollet. Donc, Sylvie Fontanelle, c'est une journaliste qui porte ses cheveux blancs avec Superbe et qui dresse une liste, en fait, de pourquoi les cheveux blancs sont si beaux. Blancs comme tant de choses belles et blanches, les murs peints à la chaux en Grèce, le marbre de Carrare, le sable des bains de mer, la nacre des coquillages, la craie sur le tableau, un bain de au lait, le radieux d'un baiser, la pente enneigée, la tête de Cary Grant recevant un Oscar d'honneur, ma mère m'amenant à la neige l'hiver.
Oh, voilà. C'est beau.
Voilà, vous êtes belle avec vos cheveux blancs.
Oui, non, mais après, enfin, moi, je peux témoigner parce que j'ai les cheveux blancs depuis que j'ai 13 ans. Donc, je suis peu dans le même cas qu'elle, en fait. Et depuis que j'ai 13 ans, je me fais des couleurs. Et c'est pas tous les 3 mois, hein, c'est tous les mois. Parce que la repousse, elle se voit au bout de 3 semaines, quoi. Et c'est vrai. Alors moi, je l'ai vécu un peu différemment parce que je pense que à une époque, j'ai vraiment kiffé aussi jouer avec ça. Genre, je me teignais les cheveux en rouge, etc. Et en fait, je m'amusais. Ça devenait aussi mon identité, tu vois, le fait de entre guillemets devoir me faire des couleurs. Je l'ai pris comme une opportunité d'être créative avec ça et tout. Mais c'est clair que c'est hyper chiant. Moi, je dépense quoi, 10-15 euros par mois parce que j'achète des couleurs en supermarché. Hein, mais c'est clair que c'est un temps à chaque fois. J'ai trop la flemme de le faire.
Puis rien que 10-15 balles par mois, hein, ça fait depuis 13 ans. T'as vu, tu pourrais te faire un.
Ouais,
des
non, carrément.
Vacances avec
mais parce qu'il y a des gens, il y a des meufs qui le font vraiment chez le coiffeur tous les mois.
Ouais,
quoi.
Oui,
et là, alors c'est... là, c'est ça peut être du 200 balles direct, quoi.
Clairement.
Mais c'est vrai que plein de fois, des gens m'ont dit ah, tu devrais laisser tes cheveux blancs et tout. Et c'est vrai que je me dis, putain, le temps de la repousse.
Ouais.
Je vais avoir une tête bigou. ensuite... et puis, je me dis, tout le monde va me regarder bizarrement, etc. Mais enfin, je suis totalement d'accord hein, que dans l'idéal... un jour, je le ferai, tu vois. Un jour, je vais dire, allez, c'est parti, let's go, quoi, tu vois. Je sais même pas quelle tête j'aurai, en fait. C'est clair que je serai plus du tout la même personne.
Ouais.
Enfin...
C'est une discussion que j'ai eue avec ma mère parce qu'elle a une de ses amies qui a décidé d'arrêter de se teindre et qui du coup garde les cheveux gris et ma mère me disait elle a pris 10 ans
ouais.
Et je disais mais en fait c'est pas qu'elle a pris 10 ans, c'est que jusque là elle avait moins 10 ans
non,
en fait. Maintenant elle a l'âge qu'elle a en fait et en plus en l'occurrence cette personne je trouve que ça lui va super bien comme elle a les yeux en plus clairs je sais pas ça illumine un peu son visage mais voilà c'est après c'est à chaque personne qui fait comme elle le sent. Je vois ma mère typiquement elle se sent pas du tout d'arrêter de se teindre et je le respecte complètement et j'ai dit tiens et toi carrément à 13 ans ça démarre quoi c'est hyper tôt.
En fait, le truc, c'est que du coup, tu sais que tu vas devoir beaucoup plus affronter le regard des autres, que déjà, en tant que femme, c'est assez lourd. Et que je me dis, moi, j'ai l'air jeune. Et les gens, ça va forcément les faire bugger. Si j'ai les cheveux blancs, ils vont se dire, mais attends, c'est bizarre, quoi.
C'est ça.
Et j'ai la flemme. En fait, j'ai vraiment la flemme d'affronter ce regard-là tous les jours parce que je sais que les gens, ils vont me regarder en mode, mais je comprends pas, tu vois, c'est pas logique.
Ouais. Et parce que même quand tu t'en fous, on vient te la ramener, celle-là. Moi, je sais que je me rappelle encore de la première fois qu'une coiffeuse a trouvé un cheveu blanc sur ma tête. Elle était, mais genre, elle a hurlé dans le salon.
Oh
alors après, je pense que. Elle a une personnalité qui lui appartient, tu vois, je la connaissais pas, mais vraiment, d'un coup, c'était un scandale. Et même, limite, elle n'osait pas me le dire. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle vient de me trouver un quinfus du crâne. C'est quoi le... J'ai trouvé un cheveu blanc. J'étais, mais c'est que ça, mais calmez-vous, tout va bien. J'en ai plein,
en plus,
en fait,
t'es blonde, donc ça va pas se
mais
voir beaucoup.
Fous.
Quoi,
et puis, en plus, je m'en fous complètement.
Mais c'est
en,
ouf.
Dans mon cas. Hein. Mais.
Ouais, non, mais.
Et même quand on s'en fout, d'un coup, ça devient une histoire.
Un cheveu blanc, une ride, une vergeture. Ça y est, c'est la fin du monde.
C'est ça. C'est terrible.
Laissez-nous tranquille.
Enfin, bon, bah écoute, Elsa, garde le mic, c'est à toi de nous présenter la prochaine Warrior.
La prochaine Warrior, c'est Émilie, qui vit à Montréal en coloc depuis 1 an, et elle a une histoire de poils à nous raconter.
Salut les filles, et j'espère quelques garçons qui écoutent ce podcast. Pour un petit contexte, j'habite dans une grande colocation à Montréal depuis quasiment 1 an, et il y a quelques semaines, il y a ce jeune homme qui est donc arrivé à la colocation, et on s'est tout de suite plu, tout de suite tourné un petit peu autour. Je me suis donc absentée pendant les fêtes de fin d'année et la veille de mon départ, je m'étais dit « Allez, ce soir là, c'est ton soir ma poule, c'est pour toi ». Ça fait quelques mois maintenant que je m'épile quasiment plus et j'en suis vraiment fière. Je m'épile ni les aisselles, ni les jambes, ni la minette. Mais c'est peut-être aussi important de préciser que ça fait plusieurs mois que j'ai pas fréquenté quelqu'un, ce qui a peut-être joué au final sur ma décision. Puis ce soir-là, donc, la veille de mon départ, après un très long et virulent conflit avec moi-même, je me suis résolue à me raser le pubis en laissant un joli triangle bien dessiné. J'arrive donc à la soirée, je me sens fraîche, je me sens bien, mais même si ma jolie petite culotte en dentelle accroche sur mes poils que je viens de raser et que mon entrejambe me gratte déjà, je passe outre. Et la soirée, tout se passe bien, je sens que je vais probablement parvenir à mes fins. Et évidemment, comme vous pouvez le deviner, il s'est rien passé. On s'est retrouvés deux grands timides à se regarder dans le blanc des yeux devant la porte de sa chambre. On attendait chacun que l'autre dise quelque chose, mais personne n'a rien dit, donc il s'est rien passé. Et en fait, j'ai aussi réalisé que le fait de m'être épilé le minou me faisait d'autant plus ressentir ma pilosité ailleurs sur mon corps. Comme si en fait, je m'en retrouvais encore plus gênée. Donc autant vous dire que mon niveau de frustration à la fin de la soirée était au maximum. Déjà de m'être privée, entre guillemets, de cette soirée de par ma timidité. Mais ce à quoi s'ajoutait aussi la colère de m'être épilée pour rien, et en fait, surtout la colère de m'être épilée tout court. Comme si je m'étais fait belle pour rien, ce qui est un petit peu absurde quand on y pense. Donc les fêtes passent, et je reviens à la colocation, et cette fois je reviens avec mes poils, fière, et clairement déterminée à les garder, peu importe ce qui va se passer. Et cette fois ça manque pas, on s'est cherché, et là on s'est clairement trouvé. Et quand on se retrouve dans mon lit, en fait je pense pas vraiment à mes poils, même quand je me mets toute nue. Le seul moment où j'y pense, c'est quand il décide de me faire un cuni. Et là j'ai failli dire la fameuse « Oh, désolée, je suis pas épilée ». Mais en fait, je me suis dit « Mais non, mais je suis pas désolée. Moi, je suis bien dans mes poils, qui me tiennent chaud, qui me grattent pas, et en plus, ils sont tout doux, et moi, j'aime bien. » Donc, j'ai rien dit, et j'ai laissé faire. Et là, à ma grande surprise, même si c'est un peu triste que ce soit une surprise, alors qu'il a le museau dans mon joli buisson et ses mains sur mes jambes toutes velues, il me dit « You're so fucking hot. I love your hair. » Et bam ! Là, c'est clairement l'explosion. Je me sens mais forte, je me sens belle, je me sens libérée. Et je l'ai vraiment ressenti comme une immense victoire. Et je vous cache pas que le sexe était plutôt dingue. Déjà parce que ce genre de phrase, c'est un vrai turn on. Mais aussi parce que je me sentais bien, je me sentais entière, bien dans mes choix. Et je me sentais une femme en tabarnak.
J'adore, vraiment là. Moi, il m'a fait beaucoup de bien ce témoignage. On en avait déjà parlé, je sais plus, c'était dans l'épisode sur le sexe, je pense qu'on avait parlé ça, de la préparation et tout ça, on en avait pas mal parlé. Moi, ce qui m'a marqué dans ce qu'elle dit, c'est quand elle dit la fameuse « désolée, je suis pas épilée ».
Ouais, mais on l'a toutes dit.
On l'a toutes dit, on l'a toutes voulu le dire.
J'ai encore dit ce week-end, moi.
Voilà, et moi, je connais même des copines qui ont refusé de faire du sexe avec des mecs parce qu'elles n'étaient pas épilées, alors qu'elles auraient pu passer une super nuit, quoi. Et en fait, je vous renvoie à l'épisode justement où je vous conseillais de plus vous excuser parce que alors là, c'est vraiment l'exemple parfait où il faut pas s'excuser parce qu'en fait, tu ne dois pas à qui que ce soit de t'épiler. C'est pas un dû. Enfin, ça va pas la tête ou quoi. Donc,
mais en fait, c'est vrai qu'en si on se penche deux secondes, on le fait pas pour soi. Hein.
Non, on le fait pas pour soi.
On le fait uniquement pour les partenaires.
Parce qu'on a honte,
éventuels,
en fait.
D'ailleurs, partenaires.
C'est
éventuels.
Ça. Voilà, exactement. Donc, bon, heureusement, il y a un certain nombre de mecs qui sont OK avec les poils. J'ai entendu plein de fois, justement, des nanas raconter qu'en fait, les mecs en avaient vraiment rien à foutre et que, voilà, enfin, qu'ils disaient, mais attends, tu rigoles ou quoi, on s'en fout que tu sois pas épilé, quoi.
Et on a précisé que ceux qui font des réflexions, par contre, ils sont claqués au sol, ils font plus jamais leur adresser la parole.
Au secours, quoi, jamais, adieu. Mais voilà, souvent, on l'entend pas. On est tellement focus sur la honte qu'on n'entend pas le mec qui te dit, mais je m'en fous, moi, en fait, pourquoi tu penses à ça? Et donc, voilà, moi, ça me rend vraiment triste pour toutes celles qui se mettent vraiment la pression avant un date, dans l'éventualité qu'il pourrait se passer un truc. Je pense que c'est important qu'on se libère de cette honte qu'on a de notre propre corps. Les poils, ça fait partie de la nature. La nature ne nous a pas créé avec un abonnement Body Minute intégré dans une puce dans notre poignet.
Heureusement, parce que Body Minute,
Body Minute n'a pas été créé par la nature.
Voilà, c'est ça. Et non, parce que c'est tellement comme une évidence, tu sais. Enfin, moi, je me souviens le nombre de copines que j'ai qui vont chez l'esthéticienne hyper régulièrement. Enfin, c'est hallucinant.
Mais moi, je suis arrivée à m'excuser devant une esthéticienne, dire désolée, c'est pas très.
Exactement.
Mais
c'est bien pour ça que tu vas chez l'esthéticienne. Non, c'est pour qu'elle s'occupe de ton buisson.
Oui, c'est pour dire à quel point c'est stupide les trucs qu'on a en tête, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens.
Et on s'excuse d'avoir des poils. En fait.
Ouais.
On s'excuse.
Non, mais c'est ça.
d'être un être humain.
Ouais,
Et sachant que, si je ne m'abuse, il y a une raison, en fait,
oui,
à l'existence des poils.
Tout à
et
fait.
En l'occurrence, ça nous protège de certaines maladies. Mmh. J'ai entendu plusieurs fois des médecins dire « Attention, ne faites surtout pas d'épilation intégrale du maillot, parce que c'est carrément dangereux, en fait.
Ouais. »
Voilà, donc après, voilà, si vous voulez vous épiler, allez-y. Hein, moi, je m'épile en été, quand j'ai les jambes nues. Voilà, comme je disais, je me colore les cheveux, etc. Donc, je ne suis pas là pour faire des leçons. Hein. Mais,
De toute façon, il ne faut pas que ça devienne une nouvelle injonction, genre il ne faut pas s'épiler.
Voilà, non, c'est
L'idée,
ça.
C'est que tout le monde ait le choix. Par contre, c'est le questionner, est-ce qu'on le fait pour soi ou pour les autres? Ça, tout le monde peut se poser la question.
C'est ça.
Par contre, moi, je dis vraiment merci aux filles comme Émilie qui assument vraiment leur poil tout le temps. Parce
ça
que
nous aide.
Moi qui suis comme vous, des fois je m'épile, des fois je m'épile pas, un peu par choix ou pas forcément que par choix. Bah, des filles comme, des femmes comme Émilie qui assument leur poil, bah, ça me permet, en fait, des fois de me dire, oh, bah, tant pis,
on s'en fout.
Et d'avoir des modèles comme ça de femmes qui le font, ça libère aussi.
Et
quoi,
souvent, elles sont plus jeunes. Moi, je sais que j'ai plein d'élèves à moi qui s'épilent pas les jambes. Et à chaque fois que je leur remarque, le peu de fois où je vois des jambes ou quoi, je suis totalement admiratif parce que je me dis, j'aurais pas le courage.
Ouais, non, mais c'est ça.
Je déconstruis toutes ces idées, etc. Mais je me supporte pas avec des poils.
C'est ça,
tellement intégré.
C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, du coup, j'ai cherché quelques chiffres et j'ai trouvé que le budget beauté en moyenne, donc ce n'est qu'une moyenne, hein, mais c'était à peu près 7€ par jour.
Par jour?
Voilà. Et donc, ils ont fait une étude sur la France. À Marseille, c'est celle qui dépense le plus.
Ah ouais?
Ouais. Et du coup, ça fait genre près de 3 000€ par an, quoi.
Ah ouais, d'accord.
Pour acheter les produits de beauté, aller chez l'esthéticienne, acheter des rasoirs, blablabla.
Bon, on arrête tout, on s'organise un festival de sorcières plutôt.
T'imagines si toutes les femmes mettaient ces 3000 balles dans autre chose, mais laissons
des...
Et voilà, les Françaises passent en moyenne 1h20 par mois pour l'épilation, en fait.
Ouais.
C'est quand même pas rien. Hein.
Ouais. Et encore, je trouve que c'est... Je pense qu'il y en a qui
passent
beaucoup.
Hein.
Ouais, encore une fois, c'est une moyenne, voilà, c'est ça. Et au cours d'une vie, apparemment, si tu t'épiles au rasoir, ça revient à peu près à 5 000€. Et l'esthéticienne, ça peut aller jusqu'à 40 000€.
40 000€
en,
bah ouais,
en une vie.
Si tu fais tout, si tu fais...
Non, mais on parle souvent des coûts des tampons, ouais, etc., qui peuvent être assez élevés, ouais, aussi. Mais de se dire qu'on peut dépenser 40 000 balles d'esthéticienne en une vie, waouh. Effectivement, c'est un très bon apport pour s'acheter une maison. Hein.
Et j'ai vu un truc intéressant, là, toutes les marques justement de cosmétiques, esthétiques, etc., qui essaient de toucher les hommes. Il y en a un qui est formidable. Il y a une marque de cosmétiques dédiée aux hommes qui, pour faire un anti-cerne, l'a appelé War Paint. C'est-à-dire la fragilité masculine, c'est que pour qu'un mec arrive à se mettre de l'anti-cerne, il faut dire que c'est de la peinture de guerre,
non,
tu vois,
mais...
surtout pas de l'anti-cerne.
Mais c'est quand elle montrait Pépite Sexiste, elle disait si on... les hommes, ils se lavent avec du bois, parce que tu vois les trucs de gel douche, c'est
vrai,
vraiment... Oh, ouais. Et du coup, vous, c'est quoi votre rapport à l'épilation? Est-ce qu'il a évolué? Enfin, est-ce que vous avez eu plusieurs phases? Parce que j'ai vu aussi que selon les tranches d'âge, par exemple, l'épilation du maillot était pas la même. Enfin, donc je sais pas. Enfin, à quel âge vous avez commencé à vous épiler, par exemple? Enfin.
Alors là, sur les aisselles, c'est arrivé assez tôt quand même, je crois, hein, vers l'âge de 13 ans, je pense. Les aisselles, les jambes, peut-être un peu après. Mais en fait, j'avais un truc où j'osais pas m'épiler, en fait. Enfin, c'était un peu le truc. J'avais des poils, mais c'est comme si ils me gênaient, et en même temps, j'avais pas envie qu'ils existent un peu, quoi. Donc, je sais pas, plutôt maillot. Tout ça, plus vers 13-14 ans.
C'est tôt, quand même.
Ouais, ça reste tôt, mais bon, j'avais des poils. Hein. Voilà. C'était pas facile, et notamment la pression des autres filles à l'école.
Ouais.
Moi, j'ai le souvenir d'une camarade de classe qui, en montant l'escalier, j'étais en jupe et j'avais un peu de poils, qui est passée derrière moi et avec une paire de ciseaux pour les couper.
Non. Ah ouais, c'est hyper violent.
Ouais, c'était assez violent.
Ça te passait en vie, hein.
Bah, du coup, ouais, je me suis épilée après ça.
Ah ouais, d'accord.
Voilà. Ouais, moi c'est pareil, c'est un épisode de moquerie qui m'a fait poser la question, en tout cas pour la première fois. Mais moi j'avais alors bon, je suis blonde donc c'est pas très visible, mais j'allais tout le temps à la piscine dans mon bled là, et un groupe de garçons m'a fait la réflexion. Alors que franchement, il fallait se mettre vraiment dans l'angle qui fait que le soleil fait qu'on les voit. Hein. Mais je suis rentrée chez moi en demandant à ma mère si je pouvais me raser les jambes. Ma mère était dégoûtée. Elle était « Non, mais c'est beaucoup trop tôt
oh !» là là.
Et en fait, quand elle a vu que j'étais vraiment en détresse, mais par rapport... Parce que je voulais m'intégrer, que je voulais pas qu'on se moque de moi, et qu'il y avait, il y avait déjà suffisamment de raisons en plus de se moquer de moi à l'époque. Quoi. Donc, pas celle-là en plus.
Ça suffit.
Et du coup, elle m'a laissé faire. Mais par contre, effectivement, ça évolue. Et je me rends compte que selon les mecs, des fois, j'ai essayé de faire plaisir. Genre moi, typiquement, je vais jamais chez l'esthéticienne. Je trouve que c'est trop cher pour
ce
genre de choses-là. Enfin, même si leur métier a de la valeur, mais moi, en tout cas, j'ai pas ce budget. Et les deux trois fois où j'y suis allée, c'était à chaque fois pour faire plaisir à un mec. Mmh. Et genre, j'ai fait une intégrale. Et en fait, derrière, je me suis chopée des mycoses parce que oui, bah, c'est de ça que ça protège en fait les poils. Mmh. Et donc j'ai arrêté en tout cas de me faire mal parce que j'ai dit ça, je veux plus. Donc
c'est
moi,
de
je
la
me
torture.
Rase. Et je suis toujours très entretenue par contre parce que j'ai du mal à. Enfin, sauf quand je suis célibataire, mais là, je suis avec quelqu'un, je fais gaffe. Après, lui, il fait gaffe aussi. Ça aussi, ça change. Il y a en plus de mecs qui s'épilent et du coup j'ai pas l'impression d'être dans un rapport déséquilibré dans la mesure où lui aussi il prend soin de lui, tu vois.
C'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup de mecs maintenant se taillent un peu les poils carrément,
et ils gagnent des centimètres apparemment.
Ah oui, c'est vrai, c'est aussi
des
pour
centimètres.
Ça. Bah oui, du coup leur bite, elle a l'air plus grosse. En fait,
tu vois la base quoi, du coup.
Là, c'est vrai,
d'accord,
c'est vrai.
Ouais, effectivement, c'est vrai, ouais.
Oh, moi qui pensais que c'était une bonne intention.
Non, c'est comme la barbe, c'est pour pimper en fait.
Merde.
Enfin, c'est l'inverse de la barbe du coup.
OK. Bon, en tout cas, si vous voulez creuser le sujet, il y a plein de comptes Instagram qui parlent de ça, paye ton poil, nos poils, le sens du poil, parlons poil, mal poli. Donc n'hésitez pas à aller les suivre parce que du coup, il y a plein d'informations aussi sur ce sujet et de punchline et tout, donc c'est assez cool.
Yes. Et puis on va rester sur le sujet du poil d'ailleurs pour voir justement qu'est-ce que ça donne dans le milieu du travail notamment. Et donc c'est Rachel elle témoigne sous un faux nom, elle a émis le souhait de rester anonyme et veut pas trop qu'on non plus pas cribler d'accusations la boîte en question. Elle a 31 ans, elle est en pleine reconversion professionnelle suite justement à un clash avec la boîte dans laquelle elle bossait précédemment. Il s'agit d'une SCOP, donc une société coopérative dont les valeurs correspondaient vachement aux siennes, l'équipe était féminine, bonne ambiance et tout, donc en fait elle se sentait plutôt chanceuse. Et dans cette boîte, elle a réussi à prendre un an de césure, entre guillemets. Elle est partie au Canada pendant un an. Et pendant cette année au Canada, elle a pris des décisions sur sa propre façon de vivre, et parmi lesquelles arrêter de consommer de la viande, arrêter de s'épiler et ne plus mettre de soutif. À son retour dans la boîte, elle comprend vite que ça va coincer.
Oh là là.
Elle sera convoquée par les quatre femmes associées, donc les quatre patronnes, qui lui ont dit que ça nuisait à l'image de la boîte. On l'écoute.
Elles m'ont demandé de ne pas forcément m'épiler de nouveau. Mais en fait de cacher mes poils. Donc voilà, j'aurais dit, mais ça veut dire que tout le monde peut se mettre en jupe, mais moi je peux pas mettre en jupe. Ben voilà, en fait, c'était ça. À la fin de ce rendez-vous, je pars, et là, en fermant la porte, je me dis, ok, en fait, je vais partir de cette boîte, quoi. Et le soir même, en fait, j'envoie un mail aux quatre chefs, donc aux quatre associés qui sont quatre femmes, en leur disant que je demande une rupture conventionnelle suite à ce rendez-vous. Du matin, parce que je ne me vois pas rentrer dans ce nouveau règlement. Ça cassait totalement l'image que moi j'avais de l'entreprise au niveau d'une certaine éthique, etc. Enfin, pour moi, ça a été un coup de massue, quoi, ce rendez-vous. Une grosse déception, quand même. Puis, quatre personnes que moi j'aimais beaucoup, avec certaines, on était quasiment des amis, donc ça m'a aussi beaucoup questionnée, voilà, dans mes relations professionnelles, à me dire, oups, mais là, en fait, c'est pas juste des relations professionnelles qui sont en train de s'entacher, c'est aussi des relations amicales. Ouh, ça a été quand même très, très dur à gérer. Et voilà, et donc je finis mon mail en disant que, jusqu'à ce que mon contrat se termine, en tout cas, je ne suivrai pas cette nouvelle règle. Donc, voilà, le sachant, qu'elle fasse attention où elle me mettait, si elle voulait pas que, face à certains clients... j'apparaisse telle que je suis, en fait, et telle que sont toutes les femmes, c'est-à-dire poilue et avec des tétons. J'ai été convoquée une seconde fois pour m'expliquer parce qu'elles ne comprenaient pas. Elles m'ont dit, voilà, Rachel, tu demandes à partir parce qu'on ne peut pas te laisser être en jupe et exposer tes poils, c'est ça. C'est vraiment juste ça. Et je leur ai dit, oui, c'est ça. Il y a ça et la thématique du soutien-gorge. Mais en fait, pour elles, ce qu'elles me demandaient, c'était rien du tout. Du coup, elles m'encourageaient à démissionner, quoi. Ce qu'on m'a dit texto lors de mon premier entretien, on m'a dit, voilà, quand il y a la clim, Rachel, on peut voir tes tétons qui pointent. Eh ben oui, effectivement, quand il fait froid, les tétons des mammifères, en fait, pointent. Enfin, c'est des choses où on se dit, aujourd'hui, dans notre société, on n'est plus capable d'accepter ça. Tout de suite, ça devient sexuel, ça devient pas tolérable, il faut le cacher, en fait. Donc que mon collègue homme, il ait des chemises près du corps et qu'on voit ses tétons parfois à travers la chemise, pas de souci. Par contre, si c'est une femme, alors là, ça ne passe pas. Et j'avais clairement pas envie d'aller au prud'homme parce que, aussi, c'était quatre personnes que j'estime énormément, en fait, avec qui j'avais énormément de liens. Et qu'en fait, j'aime la boîte. Alors là, j'étais très déçue des personnes qui gouvernaient la boîte. Mais pour autant, cette boîte, j'y ai fait de très belles années et j'avais pas envie de lui faire ça, quoi. Donc, par chance, après, j'ai su qu'elles acceptaient ma rupture conventionnelle. Et là, ça m'a soulagée. Et je me suis dit, OK, on s'en arrête là. Et puis finalement, en discutant avec une amie qui m'a dit « Mais tu peux pas t'arrêter là, en fait. Là, c'est quasiment leur donner raison. Ton affaire, elle va jamais, en fait, faire grand bruit. Et si ça arrive à d'autres personnes comme toi, en fait, elles vont chercher des antécédents, puis elles trouveront rien. » Et c'est vrai que moi, dans ma situation, je me suis sentie extrêmement seule, quoi. Donc elle m'a dit « Mais écris un article, en fait, dans le journal. » Et donc, pour des raisons militantes, moi, j'avais des contacts avec des journalistes. Donc j'ai envoyé un mail à plusieurs journalistes, et dont Libération, qui m'a répondu positivement et qui m'a proposé donc d'envoyer un témoignage. Ce que j'ai fait, donc mon témoignage est paru. Bien sûr, j'ai un pseudo dans ce témoignage parce que voilà, j'avais envie que la situation soit connue, mais pour autant, j'avais pas envie de les cibler elles et en fait d'avoir une espèce de vengeance. C'était pas du tout ça le but. Et là, ça a vraiment soufflé un froid encore plus énorme que ce qu'il y avait par le passé. Donc moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en remettre, j'ai eu une grosse période où je dormais très mal, je faisais des cauchemars, j'avais peur de les croiser dans la rue, tellement en fait je me sentais mal vis-à-vis de moi, mes convictions et ce que je suis sûre d'être aujourd'hui, ce que j'ai envie de défendre, c'est-à-dire que j'ai pas envie que les petites filles de demain, on soit là encore derrière elles, à leur dire comment elles peuvent s'habiller, comment est-ce qu'elles peuvent se comporter, et en fait que voilà, notre corps est fait de tétons, notre corps est fait de poils, et en fait pourquoi il faudrait les cacher. Et voilà, et ce truc toujours de dire mais pourquoi chez les hommes ça passe, chez les femmes ça ne passe pas, j'y arrive plus. Et pour autant, j'ai pas regretté cet article, mais j'ai pas regretté non plus ce qui s'est passé, parce que ça m'a permis d'en parler ouvertement en fait. Ça m'a permis d'en discuter avec des copines et des copains, et de leur faire comprendre à quel point c'était difficile le regard de l'autre quand on est une femme. C'était hyper intéressant en fait d'ouvrir ce champ de parole. Puis je me suis rapprochée aussi de groupes qui existent comme Liberté, Sororité, Pilosité, où il y a plein de témoignages. Voilà, donc moi j'étais contente de soulever un peu ce sujet-là, de dire à mes amis, voilà, peut-être que vous travaillez avec des femmes ou des hommes qui se posent des questions sur ce qu'ils doivent représenter, quelle est l'image qu'ils doivent donner dans leur boîte. Et en fait, ça passe par nous tous, en fait. C'est le regard qu'on donne aux gens, enfin qu'on a sur les gens, qui fait que les choses vont changer ou ne vont pas changer. Et aujourd'hui, voilà, je sais que dans le métro, ça m'est arrivé qu'on me regarde les jambes, que les gens en discutent entre eux. Pour réfléchir à des petites phrases à donner, par exemple, je m'étais dit, ok, la prochaine fois que ça m'arrive, je pourrais dire à ce gars-là qui me dévisage, lui dire, t'inquiète, hein, t'en auras toujours plus que moi, aucun souci. Hein.
Wow. J'aime bien cette réplique.
Ouais, c'est pas mal.
Merci Rachel, je trouvais pas mal de terminer là-dessus. Ça donne un peu de toucher d'inspi. Merci beaucoup. Bah déjà, en plus pour, j'imagine cette histoire, elle a dû durer une plombe en plus entre les différents rendez-vous, etc. Mmh. T'as eu le temps de cogiter le sujet dans tous les sens. Donc bravo d'avoir défendu tes convictions jusqu'au bout et de pas transiger là-dessus. C'est pas du tout évident, encore moins dans le monde du travail avec la dépendance économique que ça génère, etc. Donc le poil, on en a déjà beaucoup parlé, donc on va peut-être pas revenir dessus, mais sur les tétons. Moi, je trouve que c'est vraiment parmi les générateurs d'injonctions contradictoires les plus flagrantes, et notamment quand ce débat se trouve autour de l'école, où vraiment on enjoint complètement les filles à cacher leur sein dans des soutiens-gorge. Par contre, on les enjoint aussi à cacher absolument le soutien-gorge. S'il y a un téton qui dépasse, c'est un problème, et s'il y a une bretelle de soutien-gorge, c'est aussi un problème. Donc, à part la côte de maille, l'armure intégrale, je vois pas ce qui peut régler le problème définitivement, en fait. Et du coup, ça nous met dans une confusion constante, parce que du coup, on doit cacher, mais on doit cacher jusqu'à l'accessoire qui nous permet de cacher, en fait. C'est n'importe
quoi. Et après,
quoi.
Ils disent qu'ils sont anti-voile.
Voilà. C'est toujours un délire. Si tu déconstruis le truc, de toute façon, il n'y a rien qui va. Moi-même, ça fait des années que je ne mets plus de soutif, mais au début, ça n'a pas été évident, quoi. Je voyais bien, et ça m'arrive encore parfois, je suis dans une rue, je vois bien que les gars, il n'y a plus de femmes autour des nichons, quoi. Il n'y a plus que les seins qui sont là, qui se baladent tout seuls. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à assumer. Moi-même, après quelques années, il y a parfois des circonstances dans lesquelles je ne suis pas à l'aise, du coup. Mais par contre, c'est tellement plus confortable. J'ai essayé d'en mettre un la semaine dernière parce que j'avais un pull blanc transparent. Au bout de 5 minutes, il a volé. Parce que juste, je ne peux plus maintenant me mettre dans ce rôti là, m'enfermer comme ça dans un élastique, je n'y arrive plus. Une fois que t'as arrêté d'en remettre, je pense que c'est très difficile d'y revenir. Par contre,
Moi, j'en mets assez peu aussi, mais sauf quand je vais au taf, en fait, à cause justement du regard, parce que comme je suis journaliste, je suis amenée à rencontrer beaucoup de personnes, et notamment des mecs, et j'ai pas envie de me retrouver confrontée à ça en fait, ou que ma crédibilité de professionnelle soit totalement baumée par ça.
Ça peut affecter ton interview, si le mec il passe son temps à regarder tes seins.
Complètement. C'est... Moi, je sais que j'ai plein. Alors, à l'école, au début, j'essayais de remettre au moins des brassières. Et en fait, j'ai capté que j'avais énormément d'élèves qui m'étaient pas soutifs. Donc, je me disais, OK, bah, j'arrête. Ouais, ouais. Et une fois, en jury, un des membres du jury qui était avec moi, quand l'élève qui présentait son boulot est parti, il a dit, franchement, pour un jury, elle aurait pu mettre un soutif. Le mec, je l'ai allumé. En plus, il a l'âge d'être son père. Hein, donc, je l'ai allumé de poser ce genre de regard-là sur une élève. C'était juste pas possible. Et en plus, le gars était persuadé que c'était, elle avait fait ça. Pour
arrête.
Essayer de séduire le jury, tu vois, que ça soit un argument supplémentaire pour elle. J'étais là, mais enfin.
Ouais, et s'il avait mis un push-up.
T'as 45 ans, elle en a 20 déjà. Wow. D'où tu la regardes, en fait. Regarde autre chose que son taf, en fait.
Si elle avait mis un push-up, t'inquiète qu'il y aurait eu des remarques sur son décolleté.
Ah, bah oui, dans tous les cas,
tu vois. De toute façon, elle perd.
Dans tous les cas, elle perdait. Enfin, bref, ça m'a rendu, vous en doutez, bien vénère. Mais je me suis occupée de ce mec-là. Je sais pas si ça commencera, mais j'espère que non.
Il n'y a pas intérêt. On surveille.
Voilà. Donc, Rachel, elle a fait une précision intéressante aussi. C'est quand elle a publié son témoignage dans Libération, ils ont mis une image d'illustration, et là, je ne déconne pas, hein. Ils ont mis, j'ai vérifié, d'ailleurs on vous met le lien de son témoignage dans les liens de l'épisode, ils ont mis une jambe de femme qui tient une cisaille, ça fait cette taille-là, tu vois, et elle est en train en fait de tailler son buisson inexistant, puisqu'il n'y a évidemment aucun poil sur ses jambes, donc ça nous rappelle évidemment toutes les pubs pour les règles, ou c'est du liquide bleu, tout soudainement. Alors que franchement, si t'as du bleu qui te coule entre les jambes, mais fonce voir un gynéco, il y a un vrai problème. Ce n'est pas ça qu'on retrouve dans nos
pas
culottes.
Normal.
Donc voilà. Bon, pour conclure simplement sur l'histoire du poil, Rachel a donné quelques conseils qui, je pense, sont bien à partager pour les personnes qui souhaiteraient arrêter de s'épiler. Donc déjà, elle conseille de s'abonner à des groupes et des pages sur le sujet, comme par exemple Liberté, Sororité, Pilosité qu'elle a cité. Se rapprocher des personnes de votre entourage qui seront bienveillantes à ce sujet, les personnes avec qui vous pouvez être de vous-même en fait, et dont leur regard vous limite pas. Le faire aussi par palier, ça je trouvais ça intéressant, de pas forcément se lancer d'un coup comme ça. Elle conseille de démarrer l'hiver par exemple, à un moment où on montre moins ses jambes, du coup on passe du temps aussi chez soi ou éventuellement avec son ou sa conjointe, mais du coup nous-mêmes on peut s'habituer aussi à notre propre regard sur nos jambes nouvellement velues, et ne pas en faire des nouvelles injections. Donc elle explique par exemple qu'elle s'épile les sourcils parce qu'elle préfère et que c'est ok. Donc qu'on s'épile ou non, dans les deux cas, on le fait pour nous-mêmes avant tout. C'est quand on le fait pour les autres que ça vaut le coup de questionner ce qu'on est en train de faire. Voilà, merci Rachel. Et puis j'espère que ça va mieux et que ta réorientation se déroule comme il faut, que tu vas trouver une boîte dans laquelle ça posera pas de soucis. Margaïde, tu nous présentes notre prochaine warrior.
Oui, Mathilde, qui a 29 ans. Alors c'est un prénom d'emprunt aussi qu'elle a choisi pour garder son anonymat. Elle habite dans la région lyonnaise, elle est assistante sociale et elle nous raconte comment elle a réussi à se défaire des canons de beauté féminine.
Je suis une femme transgenre, donc en transition depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est vrai qu'au début de ma transition, j'avais assez peu confiance en moi, même très peu confiance en moi. Je pense comme beaucoup d'autres filles de 18 ans, mais moi en plus, il fallait que j'accepte le fait d'être née biologiquement garçon, tout en étant déjà une fille, mais voilà, avec un corps de mec. Donc j'ai voulu corriger cela en commençant une transition assez jeune, à 18 ans. Mais forcément, même si les effets ont été relativement rapides, j'étais loin d'être satisfaite de ce à quoi je ressemblais, et je me disais qu'il fallait que j'en fasse mille fois plus que les autres filles pour être légitime en tant que fille, pour aussi peut-être susciter le regard chez les garçons, parce que je me disais que j'avais peut-être besoin de ce regard-là, de leur aval pour vraiment me considérer comme une fille. Je surjouais un petit peu ma féminité, un petit peu beaucoup même, dans ma façon de maquiller, qui était peut-être un peu excessive, dans ma façon de m'habiller, qui était parfois un peu provocante aussi, dès que mes seins ont commencé à être un peu visibles. Voilà, je faisais péter le soutien-gorge push-up, le décolleté. Je supportais pas de voir un poil sur mon corps. Je sortais l'épilateur quotidiennement pour ça. Parce que j'en avais besoin, en fait. J'en avais besoin. Et même si j'avais la chance d'avoir ce qu'on appelle un bon passing, c'est-à-dire que les gens ne voient pas forcément que j'étais transgenre, malgré tout, moi, j'avais besoin de continuer à surjouer cette féminité et à vouloir me légitimer en tant que fille. Et à cette époque-là, j'étais encore une post-adolescente, donc je me disais que ça passerait par là, quoi. Au départ, je le vivais bien. J'étais un petit peu dans l'euphorie de me dire que mon corps changeait, que j'avais des seins, que j'avais des formes de plus en plus féminines et qu'on m'appelait mademoiselle. C'est pas pour autant que que j'ai arrêté de surjouer cette féminité parce que j'avais toujours cette crainte qu'en devenant moins féminine, eh ben on se rend compte que j'étais transgenre. Voilà, à l'époque, c'était vraiment une crainte que j'avais et je me sentais un petit peu insécurisée en fait par rapport à ça. J'ai rencontré mon copain donc quand j'avais 21 ans. Mon copain avec qui je suis toujours, hein, c'est devenu mon mari depuis. Donc, quand on s'est rencontrés, il y a eu le moment où il a fallu que je lui annonce que j'étais transgenre. Voilà, au moment de nos premières rencontres. Mais quand j'ai passé ce stade-là de l'annonce et quand j'ai vu que sa réaction était bienveillante et que ça changeait finalement pas grand-chose à l'image que je pouvais représenter à ses yeux, je me suis senti assez rapidement rassurée. Et c'est le regard qu'il a pu porter sur moi qui m'a fait me sentir femme, qui m'a fait me sentir à peu près belle. Et voilà, et c'est vrai que quand on était tous les deux, il me voyait sous mon plus mauvais jour, on va dire, pas maquillée, habillée un petit peu à l'arrache, enfin voilà, que j'avais pas forcément besoin d'en faire des caisses quand on était au quotidien avec lui. Et je me suis dit, si j'ai pas forcément besoin d'être au top quand je suis avec l'homme que j'aime, j'ai pas non plus forcément besoin de l'aide quand je suis dans la rue, quand je suis en cours. C'est à partir de là que j'ai commencé progressivement à sortir un petit peu de ces dictates, à me dire que c'est pas grave si j'ai un petit peu de poils sur les jambes ou si je suis pas sapée nickel et c'est pas grave si je sors pas maquillée, quoi. Voilà, depuis on est devenus parents et donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé aussi à me légitimer encore plus en tant que femme, donc voilà, et encore plus à me dire que c'était un peu dérisoire de penser que ma féminité pouvait se résumer à ma façon de m'habiller, de me maquiller, de m'épiler. Je ne suis pas opérée, donc voilà, et c'est vrai que ça m'arrive d'aller à la piscine ou à la plage en maillot de bain, donc voilà, même si j'essaye de cacher le mieux possible ce que j'ai entre les jambes, voilà, il peut arriver que parfois, ça soit pas si bien caché que ça. Et c'est vrai que autant quand j'avais 24, 25, 26 ans, je faisais vraiment attention à ça, que rien ne se voit. Maintenant, c'est vrai que je suis beaucoup moins bloquée là-dessus. Et si quelqu'un remarque ce que j'ai dans ma culotte, à la rigueur, maintenant, ça me passe un petit peu au-dessus. Et donc, tout ça pour dire que à la piscine, donc c'était il y a un an et demi à peu près. Voilà, j'étais à la piscine, donc. Je sors de l'eau, je vais me poser vers ma serviette et j'entends deux mecs, il devait avoir 16-17 ans à peu près, et un qui, de manière très peu discrète, dit « Regarde et tout, je suis sûr qu'elle a une bite, en gros. » Et c'est vrai que voilà, j'ai entendu ricaner. Au bout d'un moment, voilà, au début, je faisais un petit peu comme si on en était. Et au bout d'un moment, je me suis retourné vers eux. Je leur ai dit, ouais. Et puis, si vous la voyez, c'est qu'elle doit être bien plus grosse que la vôtre. Voilà. Voilà tout. Voilà.
C'est retour de boomerang.
Voilà, c'est ça.
Tu veux jouer à l'estimation, on va jouer.
Merci beaucoup Mathilde pour ton témoignage qui est extrêmement éclairant et qui explique bien pourquoi en fait certaines femmes transgenres ont un besoin vital de paraître ultra féminine parce qu'en fait il en va de leur identité, même de
leur crédibilité,
voilà, et de leur existence dans la société. Donc elle avait vraiment besoin que la société la considère en tant que femme et pas comme un homme déguisé en femme comme on entend parfois pour caractériser les femmes transgenres de la part de certaines personnes. Alors c'est vraiment hyper violent en fait pour la personne qui le reçoit parce que on nie ton identité, on nie vraiment tout ce que tu es. Et donc c'est pour s'en protéger que Mathilde s'est conformée le plus possible à l'image que la société et ses amies filles aussi lui renvoyaient de la féminité. Elle parle aussi de la crainte qu'elle avait qu'on découvre sa transidentité et ça c'est hyper important aussi. D'abord par peur pour
pour qu'on ne la respecte pas, hein, comme je disais tout à l'heure, qu'on la mégenre, c'est-à-dire qu'on se trompe sur son genre, par exemple qu'on l'appelle monsieur, alors qu'elle est une femme. Mais elle peut aussi légitimement craindre des violences, des discriminations, des insultes, des agressions. Alors, il y a deux sociologues en 2015, Arnaud Alessandrin et Karine Espinera, qui ont fait une étude de sociologie de la transphobie, et ils ont estimé qu'au moins 85% des personnes trans seront agressées au cours de leur vie. Donc voilà, ces chiffres, et cette violence, elle a un nom, ça s'appelle la transphobie.
Et la transphobie tue, la transphobie c'est mal. Voilà. Débarrassez-vous de votre transphobie.
Exactement, et c'est ce qu'elle dit, hein. Elle parle aussi beaucoup de bienveillance, du fait qu'elle sait accepter elle-même grâce aussi au regard des autres, qui l'ont acceptée telle qu'elle est. Donc voilà, tout simplement, essayons d'être bienveillants les uns envers les autres, acceptons-nous tels que nous sommes et chassons notre transphobie à tous et à toutes.
Celle-là, on la chasse pas avec tendresse, par contre.
C'est ça. Alors, pour aller un peu plus loin, je vous conseille le podcast de Binge Audio de la série Camille, les femmes trans sont des femmes, en fait, qui revient sur toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur les femmes trans, qui est vraiment super intéressant.
Ouais, c'est vraiment bien.
Ouais, tu l'as écouté aussi. Tu recommandes aussi, c'est parfait.
Oui.
Et donc, Mathilde, elle nous dit aussi que l'image qu'elle avait de la féminité venait notamment des séries et des magazines qu'elle lisait. Mm-hmm. Donc, ces images de femmes hyper sexualisée, hyper féminine, hyper sapée, hyper épilée, hyper maquillée, hyper tout, quoi.
Hyper photoshopée, surtout.
Ouais, surtout.
Également. Et donc, elle dit que ça l'a énormément influencée, parce que voilà, quand elle était ado, hein, au début de sa transition, et ça l'a beaucoup influencée sur l'image qu'elle avait, enfin, l'image mentale qu'elle avait de ce que c'est d'être d'être une femme. Alors, d'où l'importance, encore une fois, de rappeler qu'il est important de diversifier les représentations dans les fictions, mais aussi dans les médias, dans les magazines, à la télévision, mais bref,
partout. Culture en général.
Dans la culture en général. C'est ce dont on a parlé dans les deux derniers épisodes où on a parlé des warriors dans les séries.
Et dont on continuera certainement de parler dans plein de prochains thèmes parce que c'est un peu transversal. C'est un peu l'histoire de nos vies quand même.
Exactement.
Et sur la. Enfin, tu parlais de Photoshop et c'est intéressant parce qu'il y a pas mal d'actrices, enfin pas mal, quelques-unes en tout cas, qui ont décidé de dire moi je veux plus que mes images soient photoshopées.
Des mannequins.
Notamment,
aussi.
Je pense, Julia Roberts ou. Comment elle s'appelle Kate Winslet, je crois. Donc, comme quoi, c'est un vrai enjeu et je pense que les personnes qui s'occupaient des magazines devaient être hyper, devaient même pas savoir quoi faire en fait, tellement c'est une habitude, tellement c'est une norme en fait. Et pareil pour le maquillage.
Ben oui.
Il y a des secteurs où si t'es pas maquillée, c'est un peu comme si t'es pas épilée quoi.
Ben
c'est inconcevable. C'est jamais de la vie tu vas aller sur un tapis rouge pas maquillée ou ce genre
de
truc.
Tous les métiers sont formés à cette. On est formé à ce problème. C'est-à-dire moi mes premiers cours de photographie quand j'étais en école de graphisme, à un moment donné j'avais shooté une copine à moi, j'avais fait toute une mise en scène etc. Et le prof a zoomé sur son bras en disant putain t'aurais pu lui enlever ses poils.
Quoi?
Wow. J'étais là, mais en fait, mais pourquoi je ferais ça? Et pour lui, c'était carrément dégueulasse. Ça pouvait pas être une photo de mode parce qu'il y avait encore des poils visibles. Alors qu'en plus, c'était pas, enfin, je veux dire, j'avais pas cadré sur son bras. Hein. La photo, c'était pas son coude, quoi. Mais voilà, on te forme carrément à te débarrasser des poils. Si la personne en a, ben, toi, tu apprends à les enlever.
Et là, on parle des magazines, mais c'est aussi le cas dans les films et les téléfilms. Moi, j'étais une fois dans une salle de montage avec une monteuse qui travaillait sur un téléfilm de France 3. Hein, donc voilà, c'est pas Netflix, c'est sur un sujet complètement lambda. Et il y avait une actrice qui avait quelques boutons d'acné sur la figure et elle était en colère. Elle me dit là, je viens d'avoir le diffuseur qui me dit que c'est pas possible ces boutons d'acné sur la figure.
Faut les lui enlever. Ouais. Ça m'étonne pas du tout, hein.
T'es là, mais ah ouais, d'accord, ça va si loin que ça, en fait. C'est-à-dire que toutes les représentations qu'on a, en fait, sont complètement faussées, en fait.
Mais qui est parfait, sans poils, sans vergéture, sans vieillissement, sans...
Ça n'existe pas.
C'est...
Mais le phénomène qui est un peu inquiétant aujourd'hui avec les jeunes, c'est les filtres, parce qu'en fait, il y a tellement de filtres partout que apparemment, il y a des jeunes femmes, notamment, qui ne supportent plus leur image sans filtre, en fait. Elles ne supportent plus de se voir, et il y en a même qui font de la chirurgie esthétique pour ressembler à comment elles sont quand elles ont un filtre, en fait, sur Instagram, sur Snapchat, etc. Et ça, c'est quand même hyper flippant, quoi.
Enfin... J'avais vu que les sociétés de crédit avaient énormément de clientèle auprès des jeunes. Et les jeunes femmes qui contractent comme ça des prêts, bien souvent, c'est pour des opérations de chirurgie esthétique. Et apparemment, il y a eu un énorme mouvement, énormément de femmes qui demandaient des opérations afin de ressembler à Kim Kardashian.
Ah oui, il y en a.
C'est un délire total.
Ouais.
Et du coup, plein de nez refaits, etc. Et t'imagines, tu t'endettes. Pour ça, quoi. Enfin...
Et surtout qu'il y a des femmes qui se font le corps entier, comme Kim Kardashian. Et là, il y a du taf. Hein.
Oui, il y a du taf.
C'est des grosses opérations, quoi.
Ouais. Ah, en plus, moi, la seule fois où j'ai été opérée, j'ai failli mourir avant que tu m'ouvres pour un truc pas indispensable.
Mais c'est ça, en fait, moi, à chaque fois, je me dis, attends, tu vas à l'hôpital par choix? Genre, t'es pas obligée? Ouh là 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 là.
Ça, moi, demande... ça me fait trop peur. N'empêche, elles encouragent
impressionnant. Carrément, carrément.
Clairement, non. Ça va, merci, je reste avec mes dents défoncées, cassées, jaunes, c'est pas grave. Pas de chirurgie dentaire, merci. Bien, bah, du coup, Elsa, tu nous présentes notre dernière warrior, je crois.
Yes, on va parler de Romy, enfin, on va laisser parler Romy, qui a 12 ans. Trop chouchou.
Je crois que c'est... Est-ce que c'est pas la plus jeune témoin de l'histoire de Yes?
Non, on a eu des plus jeunes. Non, Warrior Junior, on avait eu Adèle, 8 ans.
Ah, mais voilà. C'est une des plus jeunes, en tout cas, et elle écoute Yes. Donc ça fait vraiment plaisir.
Grave.
Et elle est à Montréal, je la laisse raconter.
Je voyais dans des émissions, j'écoutais des émissions et je voyais des filles comme ça qui portaient des crop tops et je me disais mais pourquoi? Un jour je me souviens, j'avais demandé à ma mère mais pourquoi est-ce qu'elle porte un crop top comme ça? J'avais pas utilisé mon crop top mais j'avais dit pourquoi est-ce qu'elle monte son ventre? Et ma mère m'avait répondu bah parce qu'elle trouve qu'il est beau et qu'il est plat. Et j'avais regardé mon ventre et j'avais regardé le ventre de la fille et j'ai dit mais mon ventre il est pas du tout plat. Mais là c'était moins pire parce que j'étais plus jeune et que tout le monde avait des ventres plats. Mais quand j'ai commencé par arriver... Quand j'ai commencé à être en sixième année, j'ai vu les autres filles autour de moi qui commençaient à voir leur ventre s'aplatir et tout, et qui commençaient à porter des vêtements, donc voilà, qui mettaient plus en valeur leur corps. Et je me suis rendu compte que moi, bah, mon ventre, il n'était pas plat, qu'il était toujours comme ça. Et que, en fait, ça a vraiment continué à me complexer. Donc, quand je demandais à mes parents pourquoi est-ce que mon ventre, il n'était pas plat, leur réponse, c'était que j'avais encore mon ventre de bébé, mais ça ne marchait pas pour moi parce que mes seins, ils commençaient à grandir et tout, et j'avais des poils et je ne comprenais pas. Et j'avais vraiment l'impression d'être bizarre et tout, d'être une alien ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, je me sentais pas bien, vraiment. Et j'ai commencé à porter des... aussi parce que je trouvais ça confortable, mais j'ai commencé à porter des vêtements longs pour cacher mes fesses aussi. Mais surtout pour cacher mon ventre. Et récemment, je suis allée dans une librairie et j'ai vu une fille de genre 16 ans qui portait un crop top et son ventre, il n'était pas plat. Et je l'ai regardée et je l'ai trouvée méga belle. Et je me suis dit, non mais on peut être belle et avoir un ventre rond. Et là, ça m'a complètement débouchée. Beaucoup plus récemment, j'ai fait... je m'ennuyais un petit peu. Alors, j'ai fait une séance de yoga avec une prof de yoga qui a un corps vraiment magnifique, que je trouve vraiment, 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 vraiment magnifique. Mais son ventre n'est pas parfaitement plat. Pas aussi plat que, mettons, dans les trucs de magazine ou les trucs photoshopés et tout. Et je la regardais et je la trouvais trop belle. Et en fait, ça m'a vachement donné confiance en soi. Je me suis super identifiée à elle. Et en fait, ça m'a fait me rendre compte que bah, c'était pas juste moi, quoi. Que c'était pas moi qui avais un problème. Que c'était les personnes qui avaient un ventre plat, bah, elles avaient pas tout le temps un ventre plat. Et que si elles avaient un ventre plat, bah, c'est parce que, bah, voilà, elles étaient faites comme ça. Mais qu'il y avait plein de personnes comme moi qui n'avaient pas un ventre plat. Et ça m'a complètement, je sais pas, décomplexée et tout. Et j'ai commencé vraiment à un petit peu changer ma façon de m'habiller. J'ai remis des vêtements que j'avais pas mis depuis super longtemps, comme par exemple des t-shirts qui étaient vachement collés, qui collent à la peau comme ça. Et que en fait, ça, on voyait vachement mes courbes. Je me suis dit, eh ben on s'en fiche en fait. T'as le droit d'avoir un ventre rond. Et en plus, là, on est tombé en confinement. Et du coup, ça m'a vachement... Parce que je vais à une école privée, donc je peux pas vraiment mettre des vêtements que j'aime. Donc j'ai commencé à mettre des vêtements vraiment que j'avais envie. Et après, j'ai manqué de vêtements. Du coup, c'est ça, j'ai commencé à remettre les vêtements que je trouvais qui me faisaient un gros ventre. Et je me suis rendu compte que c'était pas si pire. Et que je trouvais que mes seins étaient beaux. Que j'aimais mes seins. Et que c'est pas parce que j'avais un truc que j'aimais pas trop que ça voulait dire que ma vie était fichue. Fallait juste que je m'accepte et maintenant je me sens beaucoup mieux et c'est ma victoire à moi. Et en fait, je suis très contente de l'avoir fait à 12 ans et pas à 60 ans où il serait un petit peu trop tard pour changer les choses. Donc voilà, merci beaucoup pour votre podcast qui me donne, qui me rebooste complètement. Ça me donne envie de tout péter et je me sens plus belle grâce à vous. Merci.
t'es trop belle, Romy.
Oh, Romy. Je meurs d'amour pour toi, là. Franchement, je vais pas m'en remettre de ce témoignage, quoi. Et j'adore ton expression débouchée, donc merci pour ce débouchage en bonnet du forme. Et vraiment, bravo, 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 infiniment. Et ne change rien, t'es la meilleure.
Et effectivement, c'est trop bien que tu le fasses à 12 ans, parce que le niveau de réflexion que t'as là à 12 ans, moi, j'en étais très, très loin.
Très loin.
J'ai fait juste le petit correct. Non, c'est pas trop tard si ça nous arrive à 60 ans. C'est bien aussi, c'est mieux de s'en rendre compte à 60 ans et de kiffer sa life tout le reste du temps, quoi.
C'est vrai, maintenant on vit plus longtemps en plus. Donc,
il n'y a pas d'âge pour se faire du bien et se sentir bien.
Crop top à 60 ans.
Je vois pas où est le problème.
C'est clair. Mais oui, enfin, ce dont tu parles, la pression au ventre plat, enfin, moi je l'ai ressenti toute ma vie, je pense. Je pense que vraiment énormément de femmes en souffrent, en fait. Et du coup, font des régimes, font des abdos, quitte à aller vraiment contre sa morphologie, à ne plus rien bouffer, alors que, enfin, les femmes qui ont vraiment un ventre plat, 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 naturellement, c'est très rare en réalité. Enfin, et je crois qu'elle parle d'un truc à un moment que j'ai déjà vu pas mal de fois sur Instagram, où en fait des influenceuses montrent un peu le avant-après, enfin, où en fait elles font une photo et elles prennent exactement la même pose, mais avec leur ventre relâché. Et alors des fois c'est des femmes qui ont eu des enfants, des fois pas forcément, mais juste pour montrer qu'en fait quand tu tends ton ventre et que tu tends tes muscles, il peut avoir l'air hyper plat, alors qu'en fait le reste du temps si tu le relâches, il peut être hyper gonflé, etc. Ou après manger, enfin bon bref. Et c'est aussi le genre de choses qui montrent que le fantasme du ventre plat, enfin c'est un mythe en fait. Hein. Et quand on parle des Kardashians, etc. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui se font de la chirurgie esthétique pour avoir un ventre plat qui bouge plus en fait. Hein. Enfin bon, bien sûr, si elles grossissent beaucoup, ça va faire une différence. Mais enfin, c'est entre guillemets, c'est de la triche. Ça existe quasiment pas en fait, ce type de ventre. Donc déjà c'est illusoire d'avoir ça comme objectif, quoi.
Mais moi ce qui me choque surtout c'est le niveau de pression qu'elle se met à son âge en fait
ventre. Carrément.
Après en même temps ça me rappelle moi quand j'avais son âge aussi. J'étais archi complexée par mon bidon en fait et j'ai mis énormément de temps à l'accepter. Enfin je pense moi c'est pas à 12 ans quoi que je me suis acceptée.
Pas du tout,
moi
du
c'est
tout,
plutôt
du
à l'âge de 20 ans quoi.
Ah mais moi c'est toujours pas fini.
Ah ouais moi c'est toujours pas fini.
Absolument pas fini.
Mais c'est dingue. Enfin comment est-ce qu'on en arrive à ce que des gamines de 10, 11, 12 ans en soi là quoi, à se dire ah non moi je peux pas m'habiller comme je veux parce que j'ai mm-hmm. j'ai du ventre quoi, enfin ouais. C'est hallucinant quoi.
Et dans le genre un film feel good par rapport à ça, c'est Little Miss Sunshine. Elle m'a vraiment fait penser au personnage de la petite fille qui fait des concours de beauté alors qu'elle correspond pas au canon voilà. Et bon, déjà des concours de beauté pour des enfants, c'est quand même un concept quoi. Mais c'est très drôle et ça fait beaucoup de bien, je trouve. Et après sur le sujet des vêtements, parce que ça parle aussi des vêtements, enfin elle parle beaucoup de vêtements. Comme pour tous les secteurs de la vie, on manque pas d'injonctions contradictoires quand il s'agit de la mode. Hein. Et en tant que femme, on a globalement plus de choix de variété de vêtements que les hommes. Et moi, j'adore passer de la mini-jupe à la salopette, ok. Mais est-ce que c'est vraiment, vraiment des choix? Parce que, par exemple, moi, je trouve qu'on nous dit qu'à la fois, on doit être sexy, mais pas trop, sinon on va se faire violer. On doit avoir un style hyper affirmé qui serait le reflet de notre personnalité, montrer qui on est à travers nos vêtements, etc. On n'arrête pas de voir des slogans genre « be yourself », etc. Mais quand on a un style un peu hors cadre, réellement créatif ou qui représente vraiment notre personnalité, alors là, il faut être prête à se prendre des réflexions, comme on peut le voir dans son témoignage, quoi. Et moi, je me souviens d'un ex qui m'avait dit que une salopette que je portais était trop large. Alors que je l'avais choisie comme ça, j'avais conscience de la taille qu'elle faisait. Et en fait, ça me fait rire, parce que bon, déjà, lui, c'était clairement pas un exemple en termes de mode. Mais en plus, enfin, souvent, ça peut être des mecs qui se disent pro-féministes, etc., qui vont vous dire « Ah oui, mais tu sais, t'es pas obligée de t'épiler pour moi » ou « Tu sais, je m'en fous hein, que tu portes des talons. Ah bah, merci, enfin, super, tu sais, je t'ai pas demandé. » Ouais, voilà. Et qui vont quand même te rappeler à l'ordre gentiment si t'as le malheur de te saper de façon un peu trop masculine, en fait. Et donc pas assez hétéronormée, quoi. Donc voilà, hein, l'hétéropatriarcat, ça fout la flemme, comme d'hab.
C'est ça, faut surtout montrer que tu es disponible sexuellement, mais sans trop en faire quand même, hein, parce que je suis pas vulgaire non plus, hein.
C'est ça.
Il faut qu'il ait l'impression que tu es disponible qu'à pour lui.
Voilà.
Surtout pas pour les autres.
C'est ça. Et du coup, vous, c'est quoi votre rapport à ça, aux vêtements. Est-ce que vous dépensez beaucoup d'argent là-dedans? Vinted, pas Vinted
Moi, j'ai Vintedé, puis ça m'a fatigué parce qu'avec la boutique à côté, c'est bon. Envoyer des colis, c'est au bout d'un moment, j'en peux plus. Mais par contre, ouais, je suis très branchée fringue parce que moi, j'ai pas eu de thunes pendant longtemps. Donc la fringue, ça a plutôt été une contrainte qu'autre chose. Mmh. J'achetais pas vraiment ce que je voulais, j'avais pas le look que je voulais. J'étais un peu frustrée pendant très longtemps de ça. Donc quand j'ai eu les moyens, je me suis vachement plus amusée avec les fringues. Et surtout, j'ai appris à avoir un peu ce qui correspond à ma morphologie parce qu'en fait, il y a des fringues pour à peu près tous les corps. Et du coup, selon, justement, c'est exactement ce qu'elle disait. Moi, pareil, je kiffe mes seins, par exemple. Je trouve que c'est la plus belle partie de mon corps, donc je vois pas pourquoi je les cacherais. Donc du coup, j'ai commencé à me dire, si je mettais des trucs un peu ouverts, des chemises ouvertes, etc. Pareil, j'ai pas trop de taille, donc taille haute, bam, ça me scintille un petit peu. Et du coup, je cherche les fringues qui font que je me trouve jolie. Mais c'est vraiment... Autant, je vais être honnête, le regard des hommes reste important, particulièrement mon mec, quoi. Mais au fur et à mesure, ça s'équilibre de plus en plus. J'ai envie de moi me trouver belle dans le miroir, en fait, et de moins en moins les autres. Et à chaque fois, ça marche à tous les coups. On le sait, quand on arrive à avoir un petit regain, il y a des jours où on se sent jolie. Ces jours-là, tout va mieux, le sexe est meilleur, tout est mieux. Donc, je pense qu'il faut avant tout qu'on apprenne à s'aimer, ce qui est extrêmement difficile. Je ne sais pas faire. Hein. je vais pas me poser là en modèle.
On essaye. Work in progress.
Et en plus, moi, je fais un 36 et j'arrive à pas m'aimer. Alors voilà, c'est en plus c'est indécent. Quoi, carrément, mais c'est extrêmement compliqué, quoi.
Oui, c'est clair.
Moi, je suis pas une grosse accro aux fringues non plus, même si j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. En fait, moi, les ça peut être des achats compulsifs des fois, mais pour me faire plaisir, en fait, à un moment où je suis un peu déprimée ou quoi, je vais vraiment aller en boutique, me dire, allez, je me fais plaisir, j'achète des trucs, genre cette veste là que j'ai achetée, c'est un jour de craquage et elle m'a coûté 90€, j'ai un peu honte, mais je l'aime trop, je la mets tout le temps, je suis contente, quoi. Mais à part ces craquages, j'en achète finalement assez peu, en fait. J'ai pas forcément un goût pour ça, pour la mode ou pour le look, tout ça, mais après j'aime bien mettre des mini jupes. c'est mon truc, parce que j'aime beaucoup mes jambes, j'ai des grandes jambes,
donc, j'ai mis en valeur, voilà. Très bien.
Qu'il faut capitaliser aussi,
c'est ça.
Alors quand t'as une partie de ton corps que t'aimes bien,
c'est après ça. je peux passer une semaine en jean et pull large, parce que j'ai la flemme, en fait. Certains matins je me lève en me disant, aujourd'hui j'ai envie de mettre une jupe, j'ai envie de maquiller, machin, et d'autres jours où pas du tout, en fait. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas forcément
de raison. En fonction des humeurs.
Mais je pense que la mode, c'est vraiment le truc qui dépend vachement de ton humeur, en fait. Et il y a des jours où tu te sens hyper solaire et t'as envie que tout le monde voit que t'as hyper confiance en toi. Puis il y a des jours où t'as envie, effectivement, de te cacher, que personne te remarque parce que t'as vraiment, en fait, la flemme, encore une fois, d'affronter le regard des autres. Enfin, moi, je le vis vachement comme ça. Et après, j'avoue, je suis un peu accro à Vinted. Mais j'achète et je vends pas du tout. Faut vraiment que je me mette à vendre parce que là ça va pas. Mais
il va falloir que t'achètes un deuxième placard un deuxième appart, je sais pas.
Et sinon, en termes de référence, enfin, pour ceux qui ou celles qui connaissent pas, Miroir, le podcast de Jennifer Padjemi qui était chez Binge Audio, qui a arrêté, mais il y a pas mal d'épisodes, parle beaucoup de ça, de l'image de soi et de la mode, de son rapport à la mode, et ça montre aussi que rien n'est neutre, en fait. La mode, c'est toujours très situé historiquement, socialement, etc. Ouais. Donc voilà. Et du coup, maintenant, on va passer au self-care. Alors, du coup, encore, on a trop aimé le tribunal Misandre, donc on va remettre ça.
On va le faire à chaque fois, je crois.
Voilà. On s'est dit qu'on allait répondre un peu aux remarques débiles que les mecs nous font par rapport à tous ces sujets qu'on a abordés. Donc, par exemple, le type qui te dit que les poils te dégoûtent.
Alors, moi, je laisserai répondre la chanteuse Mara, par exemple.
Tu parles trop. Foufoune dans ta bouche. Sous le bureau. Foufoune dans ta bouche.
Foufoune dans ta bouche.
J'adore Mara. Génial. Alors, le mec, il te fait une réflexion sur tes cheveux blancs.
Moi, je dirais qu'il pourrait être condamné à se faire arracher ses cheveux blancs un par un jusqu'à ce qu'il ne lui en reste plus un, c'est-à-dire plus un seul cheveu. En fonction de quand il aura des cheveux blancs, parce que toi aussi t'en as des cheveux blancs, non, mec? Enfin, il me
très
semble.
Bonne idée.
Et si c'est un mec chauve qui fait la réflexion, on fait comment? On s'occupe des sourcils?
On lui trouvera d'autres poils.
Les poils de couilles.
Ouais.
Oui. Oui, très bien. Oui, je pensais même encore. On peut commencer par celle-là directement.
J'avoue.
À la pince à épiler, évidemment.
Alors, très bien. Le mec qui te fait une remarque sur les tétons qui pointent.
Moi, je propose qu'on lui explique qu'en fait, c'est des laser tits. Qu'à la prochaine réflexion, mes tétons vont le transformer en pied de table parce que les pieds de table, eux, ils me foutent la paix.
Ah bah très bien.
J'ai très mal dit.
J'adore. Non, mais c'est très bien, c'est parfait. Le mec qui te dit, t'es plus belle quand tu souris.
Alors ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve. Ouais. Donc je dirais opération de chirurgie esthétique des zygomatiques pour l'obliger à aborder 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 un sourire ultra bright, vous voyez, genre
Colgate.
Ken. Ouais. Colgate ou Ken de Ken et Barbie, tu vois, la poupée mannequin là.
Et il y a aussi la version Broad City où en fait deux nanas, elles font deux doigts d'honneur, ouais, et elles le mettent sur leur bouche, enfin sur leur coin de leur bouche, en faisant un grand sourire au mec.
Tu peux aussi avec un bout de scotch te scotcher la bouche pour sourire et te balader toute la journée comme ça au taf. Il m'a dit de sourire alors.
C'est ça. Et parce que même quand tu t'habilles de façon hyper féminine, il y a encore un problème. On va te dire par exemple, oh là, t'as pas un peu froid pied comme ça?
Bah non. Alors là, je lui mets direct des glaçons dans le slip. Et là, ça va toi? T'as pas froid là?
Ah parfait, j'adore. Ok, bah écoute, bon tribunal aujourd'hui. Hein.
On l'a pas fait participatif cette fois, on verra pour les prochaines thématiques, ouais, mais en tout cas on a bien kiffé la dernière fois, donc on va essayer de développer un petit peu ça. Bien, bah c'est la fin de cet épisode spécial Warrior contre les dictates de beauté. On espère que ça a boosté ton estime de toi, et si c'est pas le cas, que ça t'a au moins un petit peu rassuré. On remercie nos Warriors, donc merci à Rachel, Mathilde, Émilie, Colline et Romy. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos luttes et votre flamboyance surtout. Dans le prochain épisode, on va parler de grossophobie. Ça nous permettra de prolonger un petit peu la thématique d'aujourd'hui, mais sur des questions encore plus spécifiques du coup. Vu que tu nous écoutes, tu te doutes que ces normes et injonctions sont d'autant plus violentes à l'encontre des personnes qui sont grosses. On y consacrera donc un épisode complet parce qu'il y a beaucoup à dire et surtout beaucoup à combattre. Cet épisode, il sera donc consacré aux personnes grosses surtout et à leurs alliés un peu aussi, mais surtout aux personnes concernées. Donc, si tu te kiffes dans ton 56, que t'as donné une bonne leçon à un ou une soignante qui te faisait des sales réflexions, bref, si t'as des victoires contre la grossophobie à ton actif, raconte-nous tout, on veut tout savoir. Tu peux donc d'ores et déjà nous écrire ou nous envoyer un petit audio de 3-4 minutes environ à warriors@yespodcast.fr. On veut tout savoir. On remercie notre label marseillais, Popcast, ainsi que Radio Grenouille qui nous accueille dans son studio. Pour connaître les prochains appels à témoignages, tu peux nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi nous écouter et partager nos épisodes depuis n'importe quelle application de podcast. On se retrouve très bientôt, dans 2 semaines, pour un nouvel épisode bonus. Et d'ici là, n'oublie pas, t'es belle, t'es beau, t'es bello. C'est ton corps, c'est ton visage, c'est tes choix. Nos poings sont levés autour de toi. Que tu te kiffes ou que tu te détestes, tu le sais, meuf, t'es une warrior.
Yeah. Yes!